France Culture, bienvenue à tous, il est midi et demi. Tout de suite le journal Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Juan Guaido face à Nicolas Maduro. Le Venezuela pour leurs deux présidents. Nicolas Maduro ne semble pas prêt à quitter son poste.
Les députés grecs doivent voter aujourd'hui pour donner un nouveau nom à la Macédoine. L'accord prévoit de rebaptiser ce pays République de Macédoine du Nord. Un sujet encore très clivant en Grèce, nous l'entendrons.
Dans l'actualité française, Emmanuel Macron s'est invité hier dans un débat organisé avec des citoyens à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Le chef de l'État descend donc dans l'arène, très loin de l'image du président jupitérien mis en avant au début de son quinquennat.
L'invité du journal de midi et demi sera Claire de Mesmet, politologue à l'Institut allemand de politique étrangère de Berlin. Avec elle, nous reviendrons sur le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle signé mardi dernier.
Midi 55, ce sera la seconde partie de la grande table avec vous, Olivia.
Alors nous allons marcher aujourd'hui sur les pas de l'anthropologue Michel Nepels et s'interroger avec lui sur les outils à utiliser, ceux de l'ethnologie, ceux de l'anthropologie, pour rendre compte de la vulnérabilité des personnes rencontrées. Comment la violence peut s'immiscer dans nos corps et dans nos vies. La détresse est-elle un sujet d'étude? On en parlera à partir de 12h55.
À tout à l'heure. La crispation s'accroît d'heure en heure au Venezuela. Le pays a désormais deux présidents, Nicolas Maduro, réélu en 2018 dans des conditions très contestées, et Juan Guaido, chef de l'opposition et président autoproclamé mercredi dernier. Deux chefs d'État pour un seul pays, cela fait beaucoup. Juan Guaido a proposé à Nicolas Maduro une amnistie comme porte de sortie à la crise, mais ce dernier ne semble pas prêt à quitter son poste. Il a reçu hier le soutien de l'armée. Nicolas Maduro devrait s'exprimer dans la journée pour dénoncer une fois de plus un coup d'État orchestré selon lui par les États-Unis. De son côté, Juan Guaido a donné sa première interview télévisée, c'était hier, Olivier Poujade.
Aucune ambiguïté pour la présentatrice de la chaîne Univision. Juan Guaido est bien le nouveau président par intérim du Venezuela. Le plus grand réseau de télévision en langue espagnole émet depuis les États-Unis. C'est donc en chef d'État que Juan Guaido est ici interviewé. L'action que nous avons menée n'a qu'un seul but, se saisir de la Constitution face à cette dictature dans laquelle se trouve le Venezuela pour installer un gouvernement de transition. Déconcertant de sérénité, le jeune ingénieur de 35 ans explique son projet, stabiliser le pays pour pouvoir organiser des élections libres, dit-il. Guaido évoque même la possibilité d'offrir une amnistie à Nicolas Maduro. Ça s'est déjà produit pendant les périodes de transition. C'est arrivé au Chili, au Venezuela en 1958. Nous ne pouvons pas écarter cette possibilité. À la base, c'est un fonctionnaire qui est malheureusement devenu un dictateur, qui a fait beaucoup de victimes. Sa responsabilité est évidente et tout ça doit s'arrêter. Juan Guaido estime ne pas craindre pour sa sécurité car il affirme qu'à la moindre menace, des centaines de jeunes Vénézuéliens seront derrière lui.
Et l'Espagne est en Europe le premier pays d'accueil des Vénézuéliens qui fuient les pénuries, l'insécurité ou encore le régime chaviste. La droite sort régulièrement le sujet pour obliger la gauche à se positionner. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez veut emmener l'Union européenne vers une position commune intermédiaire, reconnaître Juan Guaido, mais exiger l'organisation rapide d'élections démocratiques. À Madrid, les précisions de Mathieu de Taillac.
Le Venezuela est quasiment une question de politique intérieure en Espagne, surtout depuis l'émergence de Podemos. Le parti de gauche radicale avait coopéré avec le gouvernement d'Hugo Chavez et la droite et le centre le lui reprochent régulièrement. Le chef de file du Parti Populaire, le PP de droite, a directement attaqué le président du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez. C'est une honte nationale, dit Pablo Casado, que Sanchez aille à Davos pour fuir ses responsabilités en Espagne, où il est l'otage de Podemos que finance la narco-dictature vénézuélienne. Fin de citation. Ciudadanos, au centre, est à peine plus tendre. Sanchez ne doit pas être en queue de peloton pour reconnaître Juan Guaido, dit Albert Rivera. L'Espagne doit au contraire, pour des motifs historiques et politiques, en prendre la tête. En face, pour Podemos, Pablo Iglesias définit l'autoproclamation de Guaido comme un coup d'État. Entre les deux, Sanchez s'est tout de même positionné du côté de Guaido par plusieurs gestes. À Davos, il a rencontré les leaders des pays latino-américains qui lui sont favorables, avant d'appeler directement par téléphone le président autoproclamé. Des sources diplomatiques indiquent au journal El País que Madrid veut amener l'Europe sur une position intermédiaire, reconnaître Guaido, oui, mais lui exiger d'organiser rapidement des élections. L'Espagne, traditionnelle spécialiste des questions latino-américaines au sein de l'Union européenne, veut rapprocher les positions. Pour l'heure, assurent les mêmes sources, seul un État membre aurait formulé des objections à la proposition espagnole.
Les députés grecs doivent voter aujourd'hui pour donner un nouveau nom à la Macédoine. L'accord prévoit de rebaptiser ce pays République de Macédoine du Nord. Il s'agit de clore une querelle diplomatique vieille de plus de 30 ans, un sujet encore très sensible, puisqu'hier soir, des centaines de partisans du non ont manifesté devant le Parlement. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Ce sujet sème la zizanie dans la classe politique et dans l'opinion grecque.
Et oui, et bien pourrait-on dire entre l'opinion grecque et la classe politique, puisque selon les sondages, une majorité de Grecs entre 60 et 70% reste opposée à l'accord que le Parlement pourrait entériner à la mi-journée. Alors, si cette question du non reste brûlante en Grèce, au point que 230 des 300 députés souhaitent s'exprimer lors du débat, c'est bien parce que l'on touche à un attribut essentiel de l'identité, de l'histoire, de la filiation avec cette Grèce antique et Alexandre le Grand, si cher au cœur de l'ensemble des Grecs. C'est même l'âme hellène au-delà de son histoire ou de sa culture. Et il y a sans doute un cri du cœur qui l'illustre. C'était lors des rassemblements contre ce changement de nom dans le journal Neos Cosmos. Notre histoire, lance une manifestante, est l'une des rares choses que l'on nous ait laissées à nous, les Grecs. On nous a appauvris. Les gens ont été expulsés de leur maison. Les impôts, le problème d'immigration. Le moins que l'on puisse faire est de s'accrocher à notre histoire. La Macédoine est un mot grec, inventé par les Grecs, pas par les Slaves. Les opposants redoutent aussi une tentation d'invasion, voire d'annexion de leur province de Macédoine dans le nord du pays. Alexis Tsipras leur rappelle pourtant que la Macédoine, eh bien, c'est même pas 2% des capacités militaires de la Grèce et engage de bonne volonté. Skopje a d'ailleurs déjà débaptisé son aéroport et l'autoroute qui traverse le pays et qui portait le nom de l'illustre Alexandre. Alors, rappelons les conséquences d'un accord qui devrait être entériné dans la journée. Il ouvrira la voie à l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN et à l'Union européenne, jusqu'ici bloquée par le veto grec. Il verra la normalisation, bien sûr, des relations bilatérales et économiques entre les deux voisins. Les Européens poussent à la résolution de ce différend. Ils en attendent un cycle vertueux dans les Balkans en démontrant que les questions identitaires peuvent se résoudre par la négociation dans cette région dont Churchill disait qu'elle a tendance à produire plus d'histoires qu'elle ne peut en consommer.
Merci à vous Marie-Pierre Véraud. Le Forum économique mondial de Davos en Suisse ferme ses portes aujourd'hui. Une édition 2019 plutôt morose, sans la présence des présidents américains, chinois, britanniques et français. Isabelle Chailloux.
Les grands patrons quittent Davos sans plus d'enthousiasme qu'ils n'en avaient en arrivant. Le Forum économique mondial s'achève en effet dans la morosité, et pas seulement à cause du froid glacial qui règne sur la station suisse depuis quelques jours. Accaparé par des questions de politiques intérieures, de Donald Trump à Emmanuel Macron en passant par Theresa May, les grands leaders politiques ont boudé le Forum. Les plus optimistes saluent un retour aux sources de Davos, avant tout un rendez-vous de dirigeants économiques. Les autres y voient surtout le signe d'un repli sur soi qui inquiète presque autant que le ralentissement de la croissance mondiale et les menaces sur le commerce international. Inquiétude liée également à la question climatique, si l'on en croit le nombre de conférences consacrées ici au sujet. Les organisateurs de Davos voulaient d'ailleurs jouer les bons élèves en réduisant de 7% l'empreinte carbone du forum. Ils avaient même proposé de rembourser la moitié des billets des participants qui viendraient en train. Une belle intention fracassée sur le nombre de jets privés utilisés pour aller à Davos. 1500 cette année, un record depuis la création du Forum économique mondial.
En Turquie, un tribunal vient d'ordonner la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'une députée kurde en grève de la faim depuis 79 jours. Leyla Güven proteste contre les conditions de détention d'Abdullah Öcalan, le chef historique du PKK. La députée a entamé sa grève de la faim le 8 novembre dernier et sa santé s'est très nettement détériorée ces derniers jours. L'épidémie de la maladie virus Ebola, qui sévit depuis le mois d'août dernier dans les deux provinces de la République démocratique du Congo, a fait 443 morts. Il s'agit du dernier décompte des autorités sanitaires congolaises. En tout, 715 personnes ont été infectées. Les élections du 30 décembre en RDC ont été annulées à Beni officiellement en raison de l'insécurité et de l'épidémie d'Ebola. Midi passé de 40 minutes sur France Culture dans l'actualité internationale nationale. Emmanuel Macron s'est invité hier dans un débat organisé avec des citoyens à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Le chef de l'État a été interpellé sur de nombreux sujets, en particulier le chômage, la fiscalité et la réforme de l'État. Auparavant, il a entendu les doléances d'une soixantaine d'élus à Valence. Emmanuel Macron descend donc dans l'arène, très loin de l'image du président jupitérien mis en avant au début de son quinquennat. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Antoine.
Emmanuel Emmanuel Macron mouille sa chemise, il donne l'impression en fait de repartir en campagne.
Oui, d'autant qu'on n'était plus là dans le cadre policier des deux premiers débats. Le chef de l'État s'est retrouvé directement face à des citoyens et notamment face à quelques gilets jaunes. L'exercice a semblé se dérouler dans l'improvisation avec des questions parfois difficiles qui ne paraissaient pas avoir été préparées ni même anticipées. Et Emmanuel Macron s'est montré très à son aise et à l'offensive hier soir, adoptant un style direct, un peu familier, empreint d'accent de sincérité.
Changer le système, c'est pas simplement dire « je vais pas à l'élection, foutez le système en l'air et moi je suis une colère mais j'ai pas de truc à proposer ». Faut proposer des vraies réformes, mais la vraie réforme elle va avec la contrainte, les enfants. Parce que si derrière on veut ceci, comment on le finance? C'est pas open bar, le bar c'est le nôtre. Et ce qu'on boira et qui n'était pas sur notre compte, c'est nos enfants qui ne l'auront pas. Bon, donc là-dessus, il faut qu'on retrouve la raison.
On a retrouvé hier soir quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qu'avait montré Emmanuel Macron lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle avec les salariés de Whirlpool à Amiens. Comme s'il avait retrouvé l'état d'esprit et la position dans lesquelles il se trouvait avant son élection en campagne électorale. Effectivement, au printemps 2017, il s'était montré plutôt à son aise dans l'exercice qui avait porté ses fruits puisqu'il avait remporté l'élection présidentielle. Il est ensuite passé à une seconde phase, celle de l'exécution du projet qu'il avait présenté et proposé aux Français. Cette phase-là, qui a duré un an et demi, a beaucoup moins bien marché puisqu'elle a débouché sur la contestation des Gilets jaunes. Dès lors, avec le grand débat, il donne le sentiment d'initier une troisième phase, au départ de laquelle il semble tout remettre à plat. C'est comme s'il disait aux Français « Ok, mon projet et sa mise en œuvre n'ont pas fonctionné, on repart de zéro et on va redessiner un projet de société. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble ?» Qu'est-ce que vous avez, vous, à proposer, les Gilets jaunes comme les autres? Et moi, je vais aussi vous dire comment je vois les choses. C'est ça qu'est en train de réaliser Emmanuel Macron et ça semble en partie fonctionner. Les Français donnent l'impression à ce stade de s'emparer de ce grand débat. Seulement désormais, pour Emmanuel Macron, il faudra aller au bout du processus, que ça débouche sur un réel changement, un nouveau projet et qui donne le sentiment à tout le monde d'avoir participé. Si ce n'est pas le cas, l'amertume et les frustrations pourraient se réveiller de manière plus virulente encore que ce qu'on a pu voir jusque-là.
Merci à vous Stéphane Robert. Et puis en plein débat national, justement, voilà une nouvelle qui arrive à point nommé pour le chef de l'État. Les derniers chiffres du chômage montrent une baisse du nombre de demandeurs d'emploi au quatrième trimestre. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Le nombre de demandeurs d'emploi avec ou sans activité est en baisse de 0,8% au quatrième trimestre.
Oui, et c'est là un chiffre plutôt bon et finalement inattendu pour le gouvernement. Sur un an, la baisse est de 0,2%. Alors il reste près de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi. Mais fait notable pour ces derniers chiffres, ils sont en baisse pour tous les demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, leur sexe ou la durée de leur chômage. La catégorie pour laquelle la diminution est la plus forte, ce sont les personnes qui n'exercent aucune activité. Leur nombre baisse de 1,1%, soit 38 000 personnes en moins sur le trimestre. Elles sont désormais près de 3 700 000. Dans un contexte économique plus morose où les prévisions de croissance sont en baisse, ces chiffres sont une bonne nouvelle pour l'exécutif et cela d'autant plus que les précédents chiffres étaient plutôt stables. Autrement dit, les créations d'emplois ne parvenaient pas à faire baisser le chômage. Et c'est d'ailleurs l'une des pistes d'explication de ces résultats. Un effet un peu décalé dans le temps des créations d'emplois plus importantes au début de l'année. Ces chiffres arrivent aussi alors que deux réformes difficiles et importantes sont en cours. D'une part, la question des effectifs de Pôle emploi. Le gouvernement veut les baisser et indexer justement le nombre d'agents sur les chiffres du chômage. D'autre part, la réforme de l'assurance chômage. À la demande d'Emmanuel Macron, les partenaires sociaux renégocient actuellement la convention UNEDIC. Autrement dit, les règles d'indemnisation des chômeurs. Une discussion difficile qui bute notamment sur l'éventuelle pénalisation du recours au contrat court par les entreprises. La date butoir pour parvenir à un accord a été reportée à la mi-février.
Merci à vous Catherine Pétillon. Le député La République En Marche, Adrien Taquet, a été nommé secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Il a été l'un des fondateurs du mouvement En Marche. Il siège à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il avait mené pour le gouvernement une mission sur le handicap. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé lui-même cette nomination, expliquant qu'en matière de protection de l'enfance, il fallait faire mieux.
Aujourd'hui, 300 000 enfants bénéficient de mesures de protection qui sont mises en œuvre pour l'essentiel par les départements qui font un bon travail, qui font même souvent un très bon travail. Mais il est clair que nous devons faire mieux. L'enjeu, c'est de faire en sorte que notre dispositif, l'ensemble des partenaires qui interviennent en matière de protection de l'enfance, la justice, les services sociaux, les conseils départementaux, les associations, l'éducation nationale, puissent travailler collectivement à obtenir de bien meilleurs résultats. Faire en sorte que les enfants qui bénéficient de ces mesures de protection puissent grandir, trouver leur place dans la société avec plus de facilité, plus de succès encore qu'aujourd'hui, faire en sorte que un certain nombre de dysfonctionnements qui ont pu être observés puissent être corrigés. Il appartiendra à Adrien Taquet de fédérer, de mobiliser, de procéder à des concertations et de faire en sorte que ces politiques publiques, cette politique publique absolument essentielle, puisse être à la hauteur des attentes de nos concitoyens.
Presque midi 46 sur France Culture, Europe du vendredi, l'invité Europe du vendredi. Avec nous aujourd'hui, Claire Demesmet, politologue à l'Institut allemand de politique étrangère à Berlin. Bonjour madame.
Bonjour.
Un nouveau traité franco-allemand a été signé mardi par Angela Merkel et Emmanuel Macron, le traité d'Aix-la-Chapelle qui complète le traité de 63 qu'avaient signé Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. Ce nouveau traité a soulevé en France de violentes critiques, pas assez ambitieux, disent certains, perte de souveraineté, accusent les autres. Bref, en Allemagne, comment ce traité a-t-il été perçu par l'opinion publique? Est-ce qu'il a déclenché les mêmes débats?
Non, il n'a pas déclenché les mêmes débats. Ce traité a été reçu avec une certaine tiédeur. Chez les pro-européens, on lui a reproché, comme en France, hein, son manque d'ambition, de ne pas aller suffisamment loin. Et par contre, chez les critiques de l'Europe, chez les eurosceptiques, notamment à l'AFD, donc l'Alternative pour l'Allemagne, il y a eu des critiques différentes. On a reproché au traité d'attaquer les droits du Parlement. En Allemagne, le Parlement a un rôle central hein, dans le système démocratique. Mais on lui a aussi reproché d'obliger l'Allemagne à payer pour les autres, et notamment pour la France. Et ça, c'est une critique, c'est même une peur, je dirais, qui est récurrente dans une partie de la classe politique de l'Allemagne, devoir payer pour les autres. En revanche, il n'y a pas eu dans le débat allemand cette haine telle qu'on l'a vue en France, cette théorie du complot. Et on voit bien qu'il n'y a pas les mêmes crispations en Allemagne vis-à-vis de la France qu'en France vis-à-vis de l'Allemagne.
Question d'Annabelle Grolier.
Oui, alors l'Allemagne, c'est peut-être plus sur des questions économiques qu'elle se crispe.
Oui, tout à fait. Cette question, justement, des finances. Faut-il à nouveau payer, faut-il financer des projets pour un pays comme la France qui peine avec les réformes, qui n'arrive pas à maîtriser son déficit public. Donc la question de devoir payer pour les autres, ça c'est un leitmotiv qui est récurrent dans le discours sur l'Europe en Allemagne, dans certaines franges de la politique, hein, bien sûr, et de la population, mais depuis des années et depuis des décennies. Et dès qu'on parle d'intégration complémentaire, on sent ressortir cette peur-là.
Donc pas de perte de souveraineté, comme on l'entend beaucoup en France. C'est pas ce point-là qui crispe.
Non, pas en tant que tel. Alors bien sûr, la question du Parlement, le rôle du Parlement, puisqu'il est notamment question de créer une assemblée parlementaire franco-allemande pour permettre aux commissions des deux pays, du Bundestag et de l'Assemblée nationale, de travailler ensemble, de coopérer davantage. Là, il y a une interrogation et même une crainte au niveau de l'AFD, encore une fois, de l'Alternative pour l'Allemagne, de perdre du pouvoir au niveau du Parlement, au niveau du Bundestag. Mais il n'y a pas cette idée d'une souveraineté allemande qui disparaîtrait. S'il y a une souveraineté, c'est plus une souveraineté financière ou d'ordre budgétaire.
Alors si on entre dans le contenu de ce traité, on voit qu'il comprend 15 projets prioritaires. Le premier porte sur la coopération au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors il n'est pas dit que la France va partager avec l'Allemagne son siège de membre permanent, comme on l'a beaucoup entendu, mais elle se fera une priorité de sa diplomatie, je cite, de l'y faire accéder comme membre permanent. Bref, ce sont quand même beaucoup de déclarations d'intention. Hein. Alors quels sont les points finalement les plus concrets de ce traité?
Oui, vous avez raison, il y a beaucoup de déclarations d'intention, il y a beaucoup de bonne volonté, et le traité reste relativement vague et ouvert sur beaucoup de questions. Mais le traité de l'Élysée de 1963, elle était aussi, finalement, mettait en place des mécanismes de concertation, mais sans aller vraiment dans les détails. Un traité tel qu'on l'a aujourd'hui doit être valable pour les prochaines décennies, en principe, peut-être même pour un demi-siècle. Donc voilà, ça c'est assez normal. Moi, je crois que le traité met en place des mécanismes qui contribuent concrètement à améliorer la coopération, mais c'est aussi et surtout un symbole. Mais je n'entends pas le mot symbole dans un sens négatif, au contraire. Je pense que c'est un symbole qui, aujourd'hui, est le bienvenu. Regardez le contexte européen. Nous sommes face à des égoïsmes nationaux partout, dans l'ensemble de l'Europe. L'heure est au chacun pour soi. Nous avons des blocages intra-européens qui nous empêchent d'aller plus loin sur les questions migratoires, sur les questions de l'eurozone. aujourd'hui, dans ce contexte extrêmement compliqué, deux États, deux pays fondateurs, la France et l'Allemagne, disent « nous voulons coopérer, nous voulons travailler ensemble ». Et ça, ça ne va pas de soi. Et je pense que c'est un message d'espoir qui est à contre-courant, mais qui est, justement parce qu'il est à contre-courant, positif à quelques mois des élections européennes qui s'annoncent très 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 compliquées.
Et alors Paris et Berlin quand même affichent de nombreuses divergences sur l'énergie, le nucléaire, l'industrie notamment de l'armement, sur l'économie, les déficits. On l'a vu encore récemment qu'il s'agisse du budget de la zone euro ou de la taxation des GAFA, ils ont quand même beaucoup de mal à se mettre d'accord et notamment sur ces deux points. Par exemple, ils ont conclu récemment des accords, mais vraiment à minima, très en deçà des ambitions françaises. Alors ce traité, vous pensez qu'il peut changer vraiment quelque chose dans le rapprochement de ces deux pays, de nos deux pays?
Je pense voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Le traité ne va pas tout changer. Le traité d'Aix-la-Chapelle n'est pas une baguette magique. Vous avez raison, nous avons beaucoup de mal, nous, Français et Allemands, beaucoup de mal à nous rapprocher parce que nous avons, sur les points que vous avez évoqués, sur d'autres, des traditions différentes, des cultures politiques différentes. Et c'est justement un point sur lequel le traité, je pense, apporte des choses puisqu'il crée ou il améliore les mécanismes de concertation pour mieux se comprendre, notamment sur l'économie, avec la mise en place d'un conseil d'experts de l'économie, sur les questions de défense militaire qui renvoient à des tabous en Allemagne en particulier. Donc, en tout cas, sur des sujets stratégiques où les blocages sont nombreux. Ça, c'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire, mais je pense que c'est indispensable parce que tant que nous n'aurons pas une vision commune des choses, notamment sur les questions de défense ou de stratégie de politique étrangère, alors nous ne pourrons pas agir en commun.
Mais dans le quotidien des citoyens, Claire de Mesmé, est-ce que, par exemple, les transfrontaliers, c'est peut-être là où, dans ce traité, on en rentre le plus dans le concret du quotidien ?
Complètement. C'est l'autre apport. Vrai apport de ce traité, c'est la coopération transfrontalière avec l'idée de faciliter au quotidien la vie des citoyens. Donc, qu'il s'agisse de formation, de recherche d'emploi, de système de santé même ou de retraite, il y a la prise de conscience ou la conscience qu'il y a des besoins particuliers dans ces régions qui sont des régions européennes par excellence et que, pour les citoyens, il y a des blocages administratifs, juridiques. Donc l'idée est de lever ces blocages ou de mettre de l'huile dans les rouages pour que ça avance un petit peu mieux. Et puis, en faisant ça, non seulement on répond à des besoins concrets, en effet, des citoyens, mais en plus, on peut montrer que l'intégration européenne, ça marche. Et ça peut, le franco-allemand peut avoir ce rôle de laboratoire à nouveau pour proposer des modèles qui pourraient aussi s'appliquer à d'autres.
Alors les critiques sont pas seulement venues de l'Allemagne ou de la France, elles sont aussi venues d'autres pays européens comme l'Italie. Et ce matin, le président du Conseil Giuseppe Conte a affirmé dans la presse italienne que la France et l'Allemagne se moquaient de l'Union européenne, ils ne pensaient qu'à leurs intérêts nationaux. Est-ce que justement le couple franco-allemand, dont on a toujours dit qu'il était le moteur de la construction européenne, il n'aurait pas un petit peu vécu ?
Mais à vrai dire, c'est un reproche qui ne date pas d'hier. C'est le dilemme de la coopération franco-allemande depuis des décennies. Avancer dans l'intégration sans exclure les autres, proposer, faire des propositions pour l'Europe, mais sans brusquer les partenaires européens. Et ça, on l'entend, mais très régulièrement. Chaque fois qu'il y a une avancée en franco-allemand, d'autres partenaires ont tendance à se sentir mis à l'écart. Moi, je pense qu'il est indispensable d'avoir le franco-allemand parce qu'on a une culture du compromis qui permet de faire avancer les choses, aussi parce que nous sommes différents. Mais il est tout aussi indispensable d'ouvrir cette coopération, de l'ouvrir en associant nos partenaires. On l'a fait il y a quelques temps sur l'immigration, sur la politique africaine avec l'Italie et l'Espagne. Eh bien, il faut continuer avec l'Italie, mais aussi avec la Belgique, avec les Pays-Bas, avec même la Pologne, même si c'est compliqué en ce moment. Et je pense que ces deux types de concertations doivent être complémentaires.
Merci à vous, Claire de Mesmé. J'ajoute que vous êtes l'auteur du livre « L'Allemagne, le modèle en question » paru dans la collection « Les idées reçues aux éditions Le Cavalier Bleu ». Cet après-midi, la France sera coupée en deux sur la moitié ouest, temps couvert à pluvieux, voire neigeux, sur la moitié est du soleil. Il fera assez frais, c'est l'hiver en même temps. 0 degré à Strasbourg, 3 à Paris, 6 degrés à Marseille, 12 à Brest. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. 17h, grand reportage présenté par par Aurélie Kiefer cette semaine. Le sujet proposé par Lola Fourmi, famille d'accueil, une vocation en crise avec un point d'interrogation. Prochain journal à 18h présenté par Benoît Bouscarel.